ואלה המשפטים, ensuite un Rashi qui pose évidemment la question, enfin évidemment, c'est peut-être pas évidemment, mais qui pose cette question que d'ailleurs posée aussi par le Midrashim. D'abord une petite remarque pour peut-être accentuer la question, c'est que le texte commence par ve'ele, et voici les lois. Et le vav, c'est ce qu'on appelle un vav à chibour. C'est le e. Et donc le e, c'est une liaison avec ce qui était écrit avant. Et donc, quel est le sens, pourquoi est-ce qu'on nous commence cette parcha avec ve et le, pour le raccrocher à ce qui était dit avant? C'est pour dire que on vient là ajouter, si tu dis « eh, voici », c'est-à-dire j'ai de un seret à dibrot, etc., et les trois lois qui sont dites après, et aussi tout mishpatim. Et donc maintenant, pourquoi est-ce que effectivement on le rattache? Pour dire que de la même manière que les Aseret HaDibrot ont été dites au Sinaï, ça aussi, ça a été dit au Sinaï. Et plus particulièrement, pourquoi est-ce que cette paracha, qu'il appelle ici le paracha Tadinim, le paracha des lois, pourquoi est-ce que c'est juxtaposé? La dernière chose dont on est parlé, c'est Mizbach Avanim, Im Mizbach Avanim Taaseli, si tu me fais un autel de pierre, tu me le feras, tu n'utiliseras pas des pierres taillées, et d'une part, et puis la rampe d'accès au Mizbach, ça va être une rampe d'accès, pas un escalier, pas des marches. Donc, c'est juxtaposé au sujet Mizbeach. Donc, les dinim sont juxtaposés aux lois, à l'autel. L'autel, c'est Beth Amikdash. Alors, Rashi dit, Lama nismecha parchat dinim le parchat Mizbeach, l'omar, lecha, shetasim sanedrin etzel Amikdash. Les mishpatim, ce sont des lois, et ces lois, elles vont être édictées, et ensuite, il va falloir les faire appliquer, veiller à ce qu'elles soient appliquées et sanctionnées si elles ne sont pas respectées. Pour ça, il faudra les tribunaux. Les tribunaux, on sait déjà que Yitro a donné à Moshe des indications concernant l'architecture du système judiciaire, et tout en haut du système judiciaire, il y a le grand Sanhedrin. Sanhedrin Agadol. Alors, on vient de nous enseigner ici que le Sanhedrin Agadol, il doit être auprès du Mizbeach. C'est ce qui s'était passé, c'est que dans le Beth Amikdash, il y avait une salle qui était la salle du Sanhedrin. Donc, si vous voulez, le Sanhedrin est quasiment une partie du Beth Amikdash, le judiciaire et le rituel ou le kadosh, le kodesh, je veux dire, sont unifiés en fait. Ils sont le judiciaire et dans l'institution, dans la construction du Mishkan et du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la Avoda, c'est le service d'Hachem. Et ce qu'on veut nous dire en juxtaposant les deux, ici, c'est nous dire que dans la Torah, on ne peut pas séparer la Avoda, le service d'Hachem, du service d'Hachem qu'on pratique en observant certaines règles bien précises de relations entre les hommes. Mais Les relations entre les hommes sont un prolongement des relations avec Hachem. Au Beth Amikdash, on est en relation avec Hachem, et c'est un pan de ces relations avec Hachem, quasiment, qui est les relations avec les êtres humains, l'autre étant, comme moi, à l'image d'Hachem. Donc la règle générale, c'est on n'est pas en train de régler des problèmes de éviter le chaos dans la société, donc il faut bien qu'il y ait des lois, sinon les gens se boufferaient le nez, etc. Non. Ici, il s'agit, dans les Mishpatim, c'est des dinim du même type que les dinim de la Avoda. Bon, il y a des dinim sur la Shrita, sur la réception du sang, de l'aspersion, etc. Et il y a des dinim dans les relations interhumaines. C'est assez important. Enfin, c'est très important. Donc, en fait, les dinim des relations entre les humains, c'est la partie du Shulchan Aruch qu'on appelle Roshen Mishpat, la quatrième partie, et les lois du Roshen Mishpat sont du même type que les lois, il faut leur donner le même background, la même source, évidemment, que les lois concernant la Avoda. Le Maharal de Prague, il explique que le Beth Amikdash, il est au centre du monde. Il est le centre du monde. Pourquoi? Parce qu'il est le lien, c'est le nombril du monde, parce qu'il rattache l'humain, le monde, à Hachem. Mais tant que le Beth Amikdash ne relie pas les hommes entre eux, excusez-moi, j'ai oublié cela. Mais tant que les hommes, non pas, tant que les relations entre les hommes, donc le Beth Amikdash, en quelque sorte, ne sert pas à arranger les relations entre les hommes.
Allô?
Oui.
Déverrouillez-la.
C'est parfait.
Benoît est également en ligne.
C'est un grand plaisir de vous avoir. Merci d'être venus si nombreux.
C'est réciproque.
Merci. D'accord. Donc le Maharal dit que il ne peut pas être le centre du monde s'il n'est pas en même temps le centre, un centre qui gouverne les relations entre les hommes. C'est pour ça qu'on a dit il faut mettre le Sanhédrin auprès du Beth Amikdash. Donc l'idée que le Beth Amikdash soit le centre, en fait, des relations, hein, grâce à lui, les relations interhumaines est une certaine qualité, donc c'est ça qui fait qu'il est centre du monde, sinon il n'est pas vraiment centre du monde. Alors Rashi ramène que Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, lo ta'ale al da'atcha lomar, ne pense pas un seul instant que tu pourrais dire Eshne la'em aperek ve'alacha shnaim o shlosha pe'amim ad shte zdura ve'fiem. Je vais leur enseigner ce chapitre ou cette halakha deux, trois fois, jusqu'à ce qu'ils l'aient bien en bouche. Ve Mishnatam, donc, et qui puisse bien le répéter. Veni matria chatzmi le avinem. Tame adavar. Mais je ne veux pas me fatiguer à leur faire comprendre les raisons. Je vais, là, techniquement, je veux qu'ils soient bien au courant, ils savent comment faire, mais bon, le reste. Le karnema asher tassim lifnehem. Tu dois les poser devant eux. Un mishpatim asher tassim. La sim, c'est poser comme on pose des couverts, comme on pose une table. Que shulchan aruch umuchan lechol lifnei adam. C'est-à-dire, il faut donner les ta'amim. Sans les ta'amim, on ne peut pas le manger. S'il y a, il faut bien un peu d'épices, il faut du sel, il faut du ta'am. Donc, le ta'am, c'est la shon nimuk, mais la shon ta'am lacher, c'est le mot ta'am veut dire raison, donne la raison des choses, mais c'est aussi le goût, au sens de, sur la langue, le palais, la bouche. Tout ça, c'est ta'amé de la Torah. On voit aussi ici que d'apprendre les dinim sans en comprendre, connaître les raisons en fait, c'est pas possible. Obligatoirement connaître, travailler pour connaître les raisons. Quand je ne connais pas la raison, c'est encore pas une raison pour ne pas faire la chose. Mais je ne peux pas me dire, moi, l'essentiel, j'ai fait la chose. Je veux dire, j'ai mis les tefilines, mais je ne sais pas pourquoi je mets les tefilines, mais je les ai mis, alors ça suffit. Non, ça ne marche pas.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'effort à fournir?
Ah non, justement. Ah, lui, non, lui il doit leur expliquer les choses. Alors, il faut quand même qu'ils, à la limite, s'ils comprennent immédiatement tout de ce que Moshe leur dit, il suffira de réviser, quoi. Mais bon, il faut qu'ils écoutent aussi l'effort de comprendre les termes, mais pas simplement d'écouter le comment on fait, quoi. Matériel, il faut faire les, voilà, la façon dont on fait le geste. Et alors là, tous les mots sont très travailler en quelque sorte. Asher tassim lifnehem. Alors, on dit lifnehem, velo lifne oved kochavim. Et même si tu sais que sur un certain sujet, les goïm jugent la chose, la loi que les goïm du pays dans lequel tu te trouves, est la même que la loi d'Israël. Tu n'as pas le droit d'amener quelqu'un devant les tribunaux des goyim. Shamevi dine Israël lifnei aramim. Celui qui amène les jugements des bnei Israël devant les goyim, mechalel et Hashem. Il profane le nom divin, ou meyaker shem ha'elelim. Et au contraire, il élève, il donne du poids au nom des idoles. C'est marqué Kilo que tsureinu tsuram, veoiveinu plilim. Que sheoiveinu plilim, zeu edut leilui irata. Voilà, il ne faut pas donner du poids aux idoles. le Ramban, sur la raison pour laquelle Ve'ele Amishpatim Asher Tasim Lifneihem, le Ramban dit Ratsa Le'akdim Lahem Amishpatim. HaKadosh Baruch Hu voulait leur dire immédiatement les Mishpatim, parce que Atem Re'item, il va dire, vous avez vu, etc., que je vous ai parlé, ça c'est Keneged Dibur Anochi Velo Tasim Iti Keneged Lo Yelecha. Donc, l'Ashlim Inyan Avodazara, Ve'ele Amishpatim Keneged Lo Tachmod. C'est-à-dire que, il veut dire ici, le Ramban, que les Mishpatim correspondent à la dernière des Aseret Adibrot, d'une convoitera pas, etc. Qui im lo yeda adam mishpat abayit ou asade le charamamon. Si l'homme n'est pas au clair sur le statut de la maison, du champ ou de l'argent, il ne respecte pas la propriété, etc. Il ne sait pas quand on a acquis, comment ça se passe. Yarchov shu shelo. Il pensera que c'est à lui. Vihmedeu, vihkacheu l'atmo. Et donc il va le vouloir la chose. Il pensera, bon, ben, je peux prendre, c'est à moi. Le fichach amar, tassim lifneem, tu poseras devant eux. Mishpatim yesharim, yanigu otam beneem, des lois droites les gouverneront entre eux pour leur relation. Velo echamdu mashen oshelaem, minadin. Et ils n'en viendront pas à convoiter les choses qui ne leur appartiennent pas, minadin. Il faut comprendre un peu le Ramban, parce que c'est clair que dans les halakhot de Yoredea, par exemple, imadam, si un homme n'a pas appris comment, qu'est-ce que c'est, quand est-ce qu'une bête est tréfa. Bête tréfa, c'est une bête qui passera pas l'année. Elle a une maladie qui fait que, bon. Donc, elle nous est interdite à la consommation. Mais si t'as pas appris qu'est-ce qu'est une tréfa, donc tu sauras. On peut amener devant quelqu'un, je sais pas, une poule dans laquelle il y a un clou qui est planté dans la poule, quoi. Et il ne saura pas dire si cette poule est tréfa ou pas. Mais les halakhot, on pourrait penser en tout cas, que les halakhot de Choshen Mishpat, les halakhot de la propriété, de ces choses-là, hein, a priori, pourquoi est-ce qu'un homme se casserait la figure sur la... Pourquoi on se tromperait? Pourquoi est-ce que quelqu'un prendrait quelque chose qui a priori n'est pas à lui? S'il n'a pas une relation avec cet objet-là, comment penser qu'on peut aller prendre quelque chose qui est chez l'autre? Encore, c'est... Bien, on va faire le fameux calva-chomer de la poche. Vous connaissez le calva-chomer de la poche? Moi, dans ma poche, où toi, tu n'as pas le droit d'aller, moi, j'ai le droit d'aller, dans ta poche, où toi-même, tu as le droit d'aller, à plus forte raison que moi aussi, je peux y aller. Donc, oui, d'accord. Et le Ramban dit, effectivement, dans le Midrash Rabbah, on dit que la Torah kula tluya b'mishpat. La Torah entière, elle dépend du Mishpat. C'est la raison pour laquelle, immédiatement après la Aseret HaDibrot, HaKadosh Baruch Hu a donné le Mishpatim. Le Midrash Rabbah, il dit que le Matan Torah est enveloppé avec les dinim. Avant les Aseret HaDibrot, il y a le problème des Sanhedrin, et après, il y a le problème des Mishpatim. Avant les Aseret HaDibrot, il y a toute l'organisation du système juridique. C'est juste avant Matan Torah, le récit de Matan Torah, il y a Yitro qui donne des conseils à Moshe Rabbeinu, comment organiser le système juridique. Le Midrash dit, c'est machal le matrona sholechet kshimukefet kol zadea b'shomri roche. C'est une femme importante qui a des gardes du corps qui l'entourent complètement. Elle ne se balade pas sans ses gardes du corps. Kacha Torah mukefet mikol zadea b'dinim. Les dinim, c'est les gardes du corps de la Torah. C'est ça, Torah kluya b'mishpat, elle dépend de mishpat. C'est la raison pour laquelle il y a tellement d'importance qui est donnée au Mishpatim. Le prochain Mishpat, c'est la partie la plus volumineuse de Shulchan Aruch. Pasuk dit ki tekne eved ivri shesh shanim yavod vashvit yetzel lachofshi finam. Si tu acquiers un eved ivri, un esclave hébreu, il travaillera 6 ans et la 7e année il sera libre et gratuitement, c'est-à-dire il n'aura rien à payer pour se libérer. Rashi dit de qui on parle ici, qui tikne, qu'est-ce que ça veut dire quand tu acquerras, miyad beddin shemachru begnevato. On parle ici d'un esclave hébreu que tu achètes et le vendeur c'est le beddin. Il y a une halakha qui dit que quand quelqu'un a volé, a priori il est condamné à rembourser. Et s'il ne peut pas rembourser, et il y a des conditions, certaines conditions existent, dans certaines conditions, il est vendu par le tribunal pour travailler, et le fruit de son travail va compenser le montant qu'il a volé, ça va permettre de payer. Donc, quelqu'un va acheter ce Eved, et l'argent qu'il va donner va servir à dédommager la personne. Lésé, volé. Alors, le Rav Volbe, il disait, il peut arriver qu'on attrape dans une institution, dans une yeshiva, ou dans un séminaire, ou dans un groupe, on attrape quelqu'un qui vole. Mais simplement, on le vire de la yeshiva, Alors, Rav Yitzhak Blazer, le grand élève du Rav Yisrael Salanter, il disait, un ganav, il a aussi un Shulchan Aruch. On ne peut pas faire n'importe quoi. La Torah, elle a prévu ce qu'on peut lui faire à quelqu'un qui a volé. Qu'est-ce qu'on lui demande? Tu dois payer ce que tu as volé. C'est intéressant parce que dans le vol, tout ce qu'on lui demande, c'est de réparer. Mais finalement, il n'y a pas d'amende, si vous voulez. Une amende, il y en a seulement si on l'a attrapé. Mais s'il vient, par exemple, lui-même se dénoncer comme il vient et dit « j'ai volé », il ne paye pas le double. Normalement, sinon il paye kefen, il paye le double. Mais il ne paye pas s'il vient lui-même. Avant qu'il vienne le témoin, qui vient de dire que voilà c'est lui et qu'on l'a attrapé, lui il se précipite au tribunal, il a fait tchouva. Il se précipite au tribunal et il dit Rabotai, voilà j'ai volé. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Rembourse. Ou si tu as encore l'objet, tu as l'obligation de le restituer. Et si tu ne l'as plus, tu dois payer la contre-valeur.
La sanction, elle est en fonction de la transgression qu'il a fait ou pas?
Non.
Quelle que soit la transgression, il durera toujours 7 ans.
Ah, non, non, là, non, là, non, il ne sera pas vendu si le montant n'est pas en rapport avec le...
Avec
le méfait. Avec, oui, si, ce qui peut, si le prix qu'on peut tirer de lui comme esclave n'est pas en rapport avec... Il n'y a personne qui veut l'acheter à ce prix-là. On ne pourra pas le vendre. On ne peut pas le vendre à un goy, je le vendre à un juif. Et quand il est vendu, il a toutes sortes de lois qui le protègent.
Il y a des règles.
Oui, toutes sortes de règles. Et dans ce qui est aussi assez important, c'est qu'il n'y a pas de casier judiciaire. C'est marqué dans celui qui encourt une peine de coup, de makot. C'est marqué « Venikle achicha le'enecha » Ton frère sera abaissé, sali en fait à tes yeux, par les coups. Donc, mais c'est marqué Achicha. Veniklé Achicha. Quand il a reçu ses makotes, il est ton frère. Et là, on apprend qu'il n'y a pas de casier judiciaire. Tu n'as plus le droit de lui parler de la faute qu'il a faite. Il a payé sa dette à la société par les coups qu'il a reçus. Et là aussi, si la Torah, tout ce que la Torah lui demande, c'est de rembourser. Tu rembourses, après on ne peut plus lui parler de... Alors après, il y a des problèmes, effectivement, dans certains cas. Est-ce que la personne, est-ce qu'elle aura encore du crédit comme témoin? Est-ce que ce type-là, si on va faire des kiddushin, ouais, et on va le prendre lui comme témoin des kiddushin. Est-ce que c'est bon, ça? Ou bien on va signer un contrat.
Oui,
et puis on va le prendre lui comme témoin du contrat. Ouais, c'est pas évident du tout. Il y a des règles générales. Des fois il est pas saoul le Hédout, il est pas saoul pour... on ne le prend pas comme témoin. Et il y a aussi une procédure pour recouvrer la crédibilité ou la fiabilité en tant que témoin. Mais bon, c'est une procédure difficile. Il faut qu'il aille à un endroit où on ne le connaît pas, et où par trois fois, il s'est conduit, on voit qu'il s'est bien conduit dans ce domaine-là. À ce moment-là, il retrouve son innocence, en quelque sorte, comme témoin. Quand quelqu'un a volé, il ne devient pas une personne à laquelle qu'on peut traiter n'importe comment. Il y a des règles, voilà ce qu'on doit lui faire, et voilà comment on doit se comporter dès lors avec lui. Donc le cas échéant, par exemple, on peut très bien ne pas avoir le droit de le jeter là, ici, là. Peut-être qu'on doit lui dire, écoute, il faut que tu rembourses, c'est tout. Dans ce cas-là, le voleur, s'il est quasiment sûr qu'on ne le trouvera pas, il vole et... À la limite, dans le pire des cas, si on l'attrape, il payera le double. Donc, ça revient à une amende de la valeur de l'objet volé. Parce que restituer l'objet volé, c'est normal. Donc, quand même pas, il ne va quand même pas y gagner dans son vol. C'est pour ça que s'il a l'objet volé, il ne peut pas dire « je vais payer ». Parce que c'est un moyen sinon de... Quelqu'un il convoite un certain objet, il le vole et puis il paye la contre-valeur. Ça c'est « Hamas », ça s'appelle. C'est important de savoir que même quand quelqu'un fait une faute, il y a des règles qui disent comment on doit se comporter par rapport à lui. Ça C'est ce que dit Rashi. Le Ramban, sur qui Tikne Eved Ivri, dit « Itrila Mishpat Arishon b'Eved Ivri ». Le premier Mishpat, c'est Eved Ivri. Ivne sheyesh b'shiloach ha'eved b'shana shvi'it zecher li'etziat Yisrael. Pourquoi? Parce que quand on le libère à la septième année, c'est libération des esclaves, ça ressemble à la sortie d'Égypte. V'yesh ba'od zecher le'maaseh bereshit que Shabbat. Et il y a une deuxième façon qui nous est imposé de faire, qui nous est imposé, qui ressemble à Maase Bereshit dans Shabbat, qui à Shana Shvi'it, la Eved, la septième année pour l'esclave, c'est Shabbaton Mimlechet Adonav, qui Yom HaShvi, il arrête de travailler pour son maître, donc c'est comme le septième jour, c'est comme Shabbat en quelque sorte. Et en plus, Yesh od shvi vashanim shehu ayovel. Et ça fait aussi référence à une septième année qui est une septième année, la septième septaine d'année, donc on a sept septaines, après il y a le yovel, le jubilé, 50e année. Ki ashvi nivchar bayamim ou bashanim ou bashmitot. Parce que le sept, il est choisi dans les jours, dans les années et dans les shmitot, dans les années sabbatiques. Vakol inyan echad. Vehu sod yomot olam. C'est le secret des jours du monde. C'est la structure du monde. Et le Rabban, donc, ça veut dire ici, il explique que la shmita, elle fait référence au Shabbat de Bereshit, la septième année. Veyovel. Le yovel, lui, fait référence à la Geula finale. Ou le karkan, igdima Torah mitzvah zu shel eved ivri, sheba nirmoz, en Shabbat de Réchit, ven agula l'atid labor. Donc le Ramban, il voit, ok, ça veut dire, oh Hashem, il y a une halakha de eved ivri, que quand un type a volé, voilà ce qu'on fait, et qu'est-ce que tu dois voir dans ce que tu fais, toi, pour lui, et lui, comment il doit vivre la chose? Il est en train de vivre une sortie d'Égypte, il va vivre quelque chose qui est de l'ordre du Shabbat et quelque chose de la Geoula finale. C'est incroyable de dire ça. Alors voilà, la septième année, il doit sortir. Et puis, on envisage tout de suite. Alors il faut savoir une chose, c'est que quand quelqu'un est vendu comme esclave, le maître de l'esclave, évidemment, il va devoir, il va être nourri, logé et blanchi. D'accord ? Il doit travailler pour son maître. Mais toute la famille est nourrie, logée et blanchie par le maître. Mais la famille ne travaille pas. Il n'y a que lui qui travaille. Donc il faut un maître de bonne volonté. Ou alors il faut vraiment que le travail du bonhomme vaille la peine pour que l'acheteur de l'esclave, il rentre dans ses frais et qu'il y gagne quelque chose. Parce que si tout le travail qu'il produit, ça lui... Pour le maître, ça sert seulement à nourrir toute la famille. C'est très intéressant. Ça veut dire que, bon, Rachid a dit ici qu'on parle d'un évêque qui a été vendu parce qu'il a volé, mais quelqu'un a le droit de se vendre comme esclave. On peut se vendre soi-même. Donc quelqu'un qui, par exemple, aujourd'hui, un chômeur qui n'a pas d'espoir de trouver du boulot, s'il arrive à trouver quelqu'un qui veut bien l'acheter, ben il a fait une super affaire. Pendant 7 ans, pendant 6 ans, il est nourri, logé, blanchi. Bon, il travaille. Très bien. Enfin, le travail qu'il va faire, c'est pas un travail comme ça, il va dire, oui, on n'a pas le droit de le faire travailler des choses, des gros travaux, des travaux exténuants, etc., on ne peut pas. Il est très protégé. On raconte toujours, enfin, c'est l'alakha, que si, par exemple, je ne sais pas, le maître, il s'achète un oreiller à, avec des plumes d'oie, je ne sais pas. Les autres oreillers, c'est, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans.
La paille.
L'oreiller à plumes d'oie, il doit le donner à son évêque. Parce qu'il n'a pas le droit de lui faire sentir au évêque que inférieur. Donc il faut au moins en acheter deux. Quoi, parce que... Je me suis toujours demandé...
Ça vaut le coup d'être voleur, des fois.
Ouais, non, mais t'as pas besoin d'être voleur.
Ouais,
tu peux te voler, tu peux te vendre. Il faut trouver un acheteur, le problème.
C'est
quand même un problème. Au moins, quand on est voleur, le tribunal cherche. D'accord, c'est un bureau de placement. Mais quand t'es tout seul.
On peut voir votre
enfant. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce que vous dites?
On peut vendre ta fille.
Non, mais la fille, on ne peut pas la vendre, ça ne rapporte pas obligatoirement grand-chose.
Elle est kidouchine.
Ça va faire le kidouchine. Il va économiser, bon, pas grand-chose. De toute manière, il ne peut pas la vendre plus que jusqu'à 12 ans. Et après, bon, alors si... En fait, cette vente-là, elle est faite pour marier sa fille. C'est quelqu'un qui ne va pas trouver facilement à marier sa fille. Alors, il passe par ce biais-là. Mais bon, ça ne permet pas de nourrir la famille. Alors, je crois que la chose, on a déjà parlé, je crois, la vraie chose difficile qu'il y a dans la condition d'esclave, c'est à supposer que l'esclave soit marié. Donc je vous ai dit, dans ce cas-là, sa famille est prise en charge. Mais s'il est marié, et alors le maître peut lui donner une esclave, si le maître il a par ailleurs une esclave cananéenne. On appelle cananéenne, c'est une esclave qui est d'origine étrangère, c'est pas une juive de naissance. Mais elle est juive maintenant, cette esclave, parce qu'on l'oblige. Quand quelqu'un, si quelqu'un il achète un évêque, vous allez en Arabie Saoudite, vous achetez un esclave. Aujourd'hui on ne peut pas, mais c'est pas à cause des Saoudiens, à cause de nous. Vous achetez un esclave, il est indigne de évêque Knani, vous ne pouvez le garder que si vous arrivez à le convertir. C'est le seul cas de conversion forcée. On l'oblige à se convertir. Mais si on n'y arrive pas, on est obligé de le revendre. On ne peut pas garder un évêque chez soi si on ne l'a pas converti. C'est-à-dire que l'idée, c'est tu ne peux pas prendre en charge matériellement un esclave, tu le prends en charge quand même, si tu ne le prends pas en charge spirituellement. Et alors maintenant, s'il a une chifra knanite, cet esclave-là, qui pratique elle respecte les lois juives, mais elle est soumise à d'autres lois aussi, au fait qu'elle est l'esclave. Elle n'est pas libre. Alors, si le maître de ces deux-là, le maître qui a acheté l'esclave hébreu, et celui qui a acheté la servante, il peut donner cette servante à son esclave dans le but d'avoir qu'elle ait des enfants qui seront des petits esclaves. Et alors, il va travailler pour son maître ici. Et alors, il y a cette phrase ici qui est à la limite du supportable, marquée dans le verset 4, verset d'Alet, Imadona viten loisha, si son maître lui donne une femme. Alors, Rashi dit, Mikan sharshut biyad rabo, limsor lo shifra knaanit, lo lid mimena avadim. Et alors, donc, de là on apprend que le maître a le droit de lui donner ça. O eno ela bi israelit, talmud lomar, aisha vila deati ela donea, on voit plus loin que ça ne peut être, ça ne peut pas être une juive. C'est obligatoirement une knaanite. Alors, alors son maître lui donne une femme, et si maintenant elle produit des enfants, Aïcha viladeati, et la donnea. La femme, qui était une esclave qui appartient à son maître, bon, elle reste toujours l'esclave de son maître, et les enfants sont aussi des esclaves qui appartiennent au maître. Vehu. Et lui, normalement, quand au bout de la sixième année, quand il entre dans la septième année, ben lui, il va maintenant sortir, il va partir. Et s'il a une épouse, il partira avec sa femme. D'accord? Et on ne peut lui donner une chifra que s'il a une épouse. S'il est célibataire, on ne peut pas lui donner, parce qu'on ne veut pas qu'il s'établisse une relation entre lui et elle. On ne veut pas qu'il vive avec elle comme si elle était sa femme au sens classique du terme. Ils ont des rapports ensemble, mais c'est, a priori, c'est tout ce que ça devrait être. Et maintenant, à la septième année, im amor yomar un eved, et si maintenant, à la septième année, quand on lui dit, voilà, tu es libre, tu dois partir, l'esclave dit, donc l'esclave hébreu, il dit, ahavti et adoni, j'aime mon maître, et ishti, j'aime ma femme, ved banai, j'aime mes enfants, lo et sechofshi, je veux pas être libre. Alors vigisho adonav, alors son maître l'amènera el Elohim, il l'amènera au tribunal, parce que le tribunal va, il faut voir si ceux qui l'ont vendu, c'est-à-dire le tribunal, on est d'accord, donc ils vont essayer de le persuader de ne pas rempiler. Parce qu'un juif, il n'est pas fait pour être esclave. Mais s'il insiste, alors Vigisho et la délette, on amènera vers la porte, au Elamzouza, ou bien les poteaux de la porte, Veratza Adonavetozno Bamartzea, et on va lui percer l'oreille, c'est-à-dire on va percer le cartilage avec un pointeau, je sais pas. Vavado leolam, et du coup il va devenir un esclave pour toujours, toujours voulant dire jusqu'au Yovel. Au Yovel, c'est sûr qu'il sort. Jusque-là, quand vous lisez ça, toute ma femme, moi j'étais jeune, je disais, très bien, quoi. Il dit, bon, mais seulement je comprenais pas pourquoi il dit j'aime ma femme et mes enfants. Que ça a à voir. Évidemment qu'il aime sa femme et ses enfants. Alors, si maintenant il devient libre, qu'est-ce qu'il veut dire? J'aime ma femme et mes enfants, je ne suis pas capable de les nourrir, alors je ne veux pas sortir, c'est ça que ça veut dire? Non. On sait à se tirer des balles, parce que, qu'est-ce qu'il dit? Qui c'est Ishti? Regardez Rashi. Qu'est-ce que dit Rashi dans le verset 5? Hey, et Ishti, ma femme, alors Laurent, qu'est-ce que tu vois? Rashi, sur le verset 5, verset hey, et ishti. Et ishti, ashifra. Vous entendez ce qu'il est en train de dire? J'aime ma femme, c'est qui sa femme? La servante. Mais il a une autre femme. Parce que s'il n'avait pas de femme, on ne lui aurait pas donné une servante. Et Banaï, c'est les petits esclaves.
Je croyais qu'il était célibataire quand il a eu une
femme. Non, au contraire. Ah, s'il est célibataire, on ne peut pas lui donner.
Parce qu'il était marié déjà.
Il est marié.
C'est chaud, ça.
Et il dit, c'est sympa pour sa femme, quoi. Ouais, sa vraie femme. J'aime ma femme et mes enfants. Si ça se trouve, il a avec sa femme d'avant, il a des enfants, il a une femme, etc. Sa femme, elle est entraînée, bon, elle est dans la maison du maître, mais elle n'est pas esclave.
Malgré elle.
Pardon ?
Malgré elle.
Malgré elle, oui, bien entendu. Parce que son mari a volé. D'accord ? Et maintenant, il lui fait, oh, j'aime ma femme et mes enfants. De qui on parle ? La servante. Elle va rester aussi, parce que de quoi elle va vivre, sinon elle va... Si elle, il n'a pas divorcé d'elle. Il lui dit simplement, écoute, toi toute seule, ça ne m'intéresse pas. J'ai au moins l'autre, quoi.
En fait, il a la belle vie. Il faut devenir ouvert. Pas de femme.
Pour la première, c'est une catastrophe.
Ah oui.
Bien sûr, c'est une catastrophe.
Elle a tout perdu, elle. Elle a perdu sa liberté, elle a perdu son mari.
Non, elle n'a pas perdu sa liberté.
Ah si, parce qu'elle est quand même en maison.
Non, non, elle est libre, elle peut aller venir, elle n'a pas de boulot.
Elle
n'a
pas choisi.
Elle n'a pas choisi, non, je comprends ce que vous dites, mais disons, elle est au moins à l'abri du besoin. Elle est nourrie, logée, blanchie. Elle et ses enfants.
Si elle travaille, ça porte.
Si elle travaille, non. Non, non. Ah, alors si elle travaille, ça appartient à son mari, mais comme ce qui appartient à son mari appartient au maître, oui. Sauf si le salaire qu'on lui donne, on lui dit, je te donne, elle travaille gratuitement, et on lui donne quelque chose, et on lui dit, almenat shein le baler, à condition que ton mari n'en profite pas. On peut lui donner quelque chose qui va rester chez elle. Je pense qu'elle aura l'intelligence au moins de faire un truc comme ça. Si elle... Au moins qu'elle puisse s'acheter les robes qu'elle a envie d'acheter. Quoi.
Mais ce mot esclave est un peu fort, non ? Ou c'est,
Non, alors, maintenant, ça c'est la chose suivante. Ça c'est la question que. Quand j'étais plus jeune, j'avais du mal, en fait, à comprendre à qui on parle. On parle à des gens qui viennent de sortir d'esclavage. Alors, si c'était moi, j'aurais dit, esclavage interdit. Oui, même un voleur, c'est pas l'esclavage. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous êtes mes esclaves, ça vous libère de tout esclavage. Alors après, maintenant j'aurais tendance à penser que quand on interdit les choses, ça ne résout pas les problèmes. Même si on interdit, il va y avoir des gens qui, sous le manteau, on va avoir des esclaves. Regardez, en France, c'est interdit l'esclavage et on attrape de temps en temps des gens qui ont des esclaves, qui rentrent à Paris, dans les beaux quartiers.
Dans les ambassades, voilà. Ils ont encore des esclaves.
Ils ont des esclaves. Et donc ça sert à rien. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est de dire oui, l'esclavage existe, mais voilà les nouvelles règles. Et les règles sont des règles qui permettent pas de le faire souffrir, qui permettent. Bon, il n'est pas libre, c'est vrai, il doit travailler. Enfin bon, c'est un fonctionnaire. Hein,
parce que la résonance qu'il donne ici, c'est pas esclave, c'est serviteur. C'est moins.
Bon, parce qu'ils n'ont pas voulu écrire esclave, mais.
Moins fort. Hein.
Oui, mais le mot, c'est le même mot, Evet. C'est vrai qu'on peut... Evet, c'est la racine. La Avoda aussi, la Avoda d'Hachem, c'est l'esclavage. On ne traduit pas par l'esclavage, on dit c'est le travail. C'est un travailleur. C'est un travailleur, mais qui n'est pas libre de choisir... Qu'est-ce qui fait de lui un esclave ? C'est qu'il n'est pas libre de choisir ce qu'il va faire. son maître qui lui dit ce qu'il doit faire. Mais c'est pratiquement tout, sauf que il y a ce problème de la femme, qui est à la fois présenté comme c'est écrit dans les Mefarshim que c'est un maître qui veut faire aussi un, il aime bien son esclave, alors il lui fait un petit cadeau. Donc, c'est pas une femme, t'as une femme de, voilà, c'est une femme de plaisir, quoi. Pour le problème. C'est assez énorme, en fait, dans l'idée. Mais surtout, avec cette loi-là, on arrive à cette situation impensable. Il faut dire que le type, il ose le dire, quoi. Il pourrait dire, j'ai peur de retourner dans la société, je veux pas risquer d'être chômeur, etc. Je préfère travailler pour toi. Non, il dit, je veux pas, parce que j'aime ma femme et mes enfants.
Mais c'est bizarre quand même, parce que ce mot, le Rashi, quand il dit Atishti, de toute façon, c'est pas autre chose qu'une chifra, parce que même si lui la considère comme sa femme, c'est une chifra.
Oui, bien sûr.
Alors pourquoi c'est-à-dire sa femme, elle dit.
Et c'est ça, si tu veux, mais ça ne peut pas être sa femme, parce que s'il s'en va, sa femme, elle part avec lui. Le problème ici, pour que la femme qui ne veut pas quitter, c'est la femme qui, s'il s'en allait, il partirait sans elle, parce qu'elle reste esclave de son maître.
C'est bizarre, parce que
c'est pour ça qu'il dit, je veux rester.
Parce que même le Kélos, je veux dire, il dit,
oui.
Pas un mot qui...
Non, parce que si tu veux, dans le langage, c'est déjà perverti. Il la considère comme sa femme.
L'autre n'avait rien alors.
Quoi? Il a deux femmes.
Sa servante ou la vraie femme? La vraie femme, c'est qui lui a donné des enfants.
Quoi?
C'est qui lui a donné des enfants.
Elle aussi, elle lui a donné. Le premier aussi, elle a donné des enfants, le cas échéant. Je ne suis pas sûr qu'il peut vraiment refuser. Et c'est, s'il ne peut pas refuser, c'est ça le piège, quoi. Il y a un piège dans cette affaire. On ne comprend pas très bien pourquoi c'est permis. Il a sa femme avec lui. Qu'est-ce que, si c'est un travailleur immigré, sa femme elle est en Algérie et lui il est à Paris, alors le pauvre il va rester quoi, 6 ans sans... Son rapport avec une femme, trop difficile. Tu comprends que, bon, on fait des arrangements. D'accord ? Mais, et sa femme est avec lui.
En fait, c'est calculé, ça. Et c'est le maître qui a calculé.
Le mec, il a calculé pour avoir des esclaves.
C'est ça, c'est pour avoir des
esclaves. Mais pour avoir des esclaves.
C'est calculé.
Il fait quelque chose qui piège complètement l'esclave hébreu. Quoi.
Dans l'optique que le serviteur vienne, soit toujours un serviteur.
Alors je ne sais pas si lui, il est tellement intéressé. Parce qu'a priori, lui, il doit lui dire, au bout de 7 ans, 6 ans, il doit lui dire, tu t'en vas maintenant. À la limite, s'il a de l'argent, il achètera un autre esclave, qui lui donnera cette chiffre-là, qu'il continuera toujours de lui donner des enfants, s'il est capable.
Juste une question.
Et si, oui.
Et si c'est la femme qui fait un méfait, qui vole, le concept est le même ?
Non.
Le mari, il est...
Non. Une femme ne peut pas être vendue... Une femme ne peut pas dépendre d'un autre homme...
Que son mari.
Que son mari ou son père.
D'accord. Donc son mari ou son père sont redevables de la...
Oui, alors si elle a volé, a priori... Alors non, c'est marqué... Si elle a volé, alors ça s'appelle Pegiat Anra. Si une femme ou un mineur vole, ou un esclave vole, ben celui qui est lésé, ben il devra attendre. Si jamais la femme divorce et qu'elle a de l'argent, comme il n'y a pas de. Comment on dit ?
De restitution ou de...
Non, il n'y a pas de. Comment on dit ? Il n'y a pas de moment où on ne peut plus réclamer son argent. Donc il peut. Hein, oui. Donc il n'y a pas. Donc même si c'est 20 ans plus tard, la femme, elle devient veuve, par exemple, elle hérite de son mari, le type, il peut venir et dire, attends, tu me donnes l'argent, là.
D'accord. Donc, elle sera toujours redevable.
Elle sera redevable, mais le gars, il n'aura pas obligatoirement son argent. Si elle meurt avant son mari, il n'aura rien. Ou s'il n'y a pas d'héritage, elle n'aura rien. En fait, je vois ici qu'il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban, entre le Maïmonide et le Nachmanide. Ce dont on avait parlé, si la femme, elle travaille, à qui va le salaire? Est-ce que le salaire va au maître? Parce que finalement, il la nourrit, cette femme. Donc, ce serait assez logique qu'il puisse au moins profiter de l'argent qu'elle gagne. Et ça, c'est une marloquette Rambam et Ramban. Donc il y a une opinion qui dit que non, elle garde l'argent, semble-t-il. Ben voilà, c'est comme ça, Ishti. Alors, le mec d'Avar, il dit effectivement, et lui, il dit Ishti, Afalgav Sheena Ishto Mamash. Elle n'est pas vraiment sa femme, la servante. Share Enki Dushin Tov Sinba. Même s'il avait voulu en faire sa femme, ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas faire des kiddushin, donner des kiddushin à une femme qui est esclave. Mikol makom, nikret belashon hakodesh ishto, shehi miyuchedet lo. Elle devient sa femme parce que elle lui est quand même réservée. Le maître la lui a réservée. Donc c'est pas, il lui permet pas d'avoir un rapport avec elle sans autre, sans, non non, il lui permet de vivre avec cette femme maritalement, disons, mais elle n'est que, elle n'a de rapport qu'avec lui. Elle peut pas avoir de rapport avec, disons qu'il a plusieurs esclaves, il peut pas la donner à plusieurs esclaves en même temps. C'est pas une, il peut pas prostituer l'esclave. Alors quand on dit qu'il va au tribunal, le tribunal, en principe, ils vont lui dire, le Emek Davar, il dit, She'en kedai bishvil isha avat isha knanit ou banim zarim le kaper kvodo. Il dit, tu te rends compte de ton kavod pour une femme cananéenne et pour des enfants qui sont des esclaves, qui ne sont pas tes enfants. Shariachar et tsiya, le yashuv le yaches avotav. C'est pas très clair parce que le mec d'avant il a l'air de dire que s'il fait ça au Yovel, quelque part il pourra plus retourner dans sa famille initial, comme si il était dégradé par rapport à la famille. Mais la halakha, elle n'est pas comme ça, a priori. Et maintenant, s'il ne veut pas écouter, comme on l'a vu, bon, ben, alors il faut. On est obligé de. C'est lui qui décide, quoi.
Je ne sais pas si vous en avez parlé. Si le voleur n'a pas d'enfant ni de femme au moment où il fait son méfait.
Alors il est vendu, mais le maître n'aura pas le droit de lui donner une femme.
Ah d'accord, il a le droit de lui donner une femme que s'il a déjà une femme.
Oui, justement, on ne veut pas qu'il prenne cet esclave pour sa femme. S'il n'en a pas, alors bon, c'est ce qui va se passer. Mais là, on pensait que puisqu'il a une femme, on ne risque rien, en quelque sorte. Bon, il va prendre son plaisir et bon, lui prend son plaisir et le maître il a les retombées puisque c'est lui qui a les petits esclaves. Et puis s'il a son plaisir, alors il peut imaginer que le type il travaillera mieux pour lui puisque bon, tu me fais des tovotes, alors je te fais des tovotes aussi. Mais bon, catastrophe, quoi. Bien, si on va aller un petit peu au verset Yud-Zayin. Il y a là-bas, Mekalel Aviv Veimo Motiumat. Celui qui maudit son père et sa mère, il sera mis à mort. Et la mise à mort, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'on appelle lapidation. Alors du coup, si on dit ce qu'il a là-dessus, dans le pasouk Tetvav, dans le pasouk 15, c'est marqué Maqué ou Maqué Aviv Veimo Motiumat. Ok, celui qui frappe son père ou sa mère, il sera mis à mort. Et là-dessus, c'est marqué Motiumat Chenek, par strangulation. Et ici, c'est par lapidation. Or, dans l'échelle des peines de mort, la lapidation, c'est plus haut, c'est la plus haute d'après certains, ou la deuxième, mais c'est plus haut en tout cas que la strangulation. Alors, c'est un peu paradoxal parce que ça veut dire que quelqu'un qui maudit son père ou sa mère, c'est plus grave que de frapper son père ou sa mère, si on s'en tient à la sanction.
Frapper ne peut pas vouloir dire faire du lachon hara.
Pardon ?
Frapper ne peut pas désigner le lachon hara.
Non, non, non.
Donc c'est vraiment frapper Stam.
Stam, oui.
Même sans les tuer.
Non, non, non.
Il faut quand même faire couler du sang.
Ça, on verra après, ça c'est les détails, mais il faut frapper.
Mais,
frapper, c'est pas tuer.
Non, mais il faut quand même faire couler le sang.
On verra, ça, pour l'instant, c'est assez technique ce que vous demandez. Ça change pas grand-chose,
bon.
Il coule du sang ou pas. Il n'empêche que Mekalel, c'est pire. Après ça. Donc c'est un peu, il faut comprendre. Comment se fait-il que ce soit plus grave? Alors, le Rabban Mo qui ramène ici que le Ramban, Nachmanide, il explique. Il dit que la malédiction est un cas plus fréquent. Et il dit la chose qui arrive plus fréquemment doit être réprimée par une peine plus forte. C'est Nachmanide. Maïmonide, le contraire, enfin, on est en général bien plus sensible à la malédiction qu'à une lésion corporelle. Maudire ses parents est encore plus ignoble que de les battre. C'est un peu subjectif tout ça. Je veux dire.
Ça va de pair, en fait. Celui qui bat ses parents, c'est qu'il les a insultés, qu'il les a... C'est...
Non, le problème, c'est le problème que de battre les parents. Et donc, c'est pas tellement clair parce que c'est pas obligatoirement qu'il a voulu les battre. Il a blessé ses parents. Il les a blessés involontairement. Mekalel, on ne peut pas être Mekalel si ce n'est volontairement. Maudire, on ne peut pas dire je maudis par inadvertance, mais frapper, on peut frapper par inadvertance. Il y a tout un problème de qu'est-ce qui se passe si un père il a un fils chirurgien. il veut absolument que ce soit son fils qui l'opère. C'est un problème. Est-ce que le chirurgien, même en tant que chirurgien, est-ce qu'il a le droit de blesser son père? C'est pas évident du tout. Non?
C'est pas recommandé en général, en plus.
Oui.
Un médecin doit passer vraiment des amis, généralement. C'est la déontologie comme ça, non? Mais là, il parle de frapper, il parle pas de...
Ouais, non, maquer, ça veut dire frapper, effectivement, il faut faire couler un peu de sang, mais il faut que ça coule, il fait une blessure. Maquer, ça veut dire blesser, là, un père, ici. Il blesse son père, mais... Alors, c'est, si vous voulez, c'est pas obligatoire l'opération, son fils, il est dentiste, plus fréquent. D'accord. Est-ce qu'il peut soigner son père, parce que, si ça se trouve, il va le faire saigner. Il faut faire une piqûre à son père. Et le père, il veut absolument que ce soit son fils. Il a confiance en son fils.
Il n'y a pas de bisote qui se percute. Un état assez avec un...
Non, il peut se percuter. Non.
Parce qu'en fin de compte, il le... Il le fait pour le sauver.
Non, s'il est en train de le sauver de la mort, il n'y a pas de question. Quoi? Non, mais il est en train de soigner une carie.
Une carie, bon. Non, mais là, on parle du chirurgien.
Bon, un chirurgien non plus, c'est pas obligatoirement mortel ce qu'il a. Il va lui enlever un kyste, tu lui enlever, je sais pas. C'est un sujet qui est traité halakhiquement. Mais bon, c'est intéressant. Pour Ramban, son idée, c'est la chose fréquente, elle doit être plus sévèrement sanctionnée. Parce que sinon, ça devient... Si c'est fréquent, alors les gens se le permettent. Oui, bon, ça arrive fréquemment. C'est possible, je ne sais pas, il y a des civilisations dans lesquelles on maudit facilement. Moi, je n'ai jamais entendu qui que ce soit maudire qui que ce soit. Mais il y a des familles où la malédiction, elle se balance facilement. Annonce, je vais maudire, etc. Il y a des gens qui ont la malédiction facile.
De respect, c'est surtout ça, parce que maudire n'a pas d'incidence sur la vie de la personne.
Ça dépend comment la personne réagit. Une personne qui entend une malédiction, si vous êtes dans une civilisation où on accorde de l'importance à la malédiction, il y a des gens qui tombent malades avec ça.
Ouais, c'est psychologique. Oui.
La semaine prochaine. Hein.
Lundi prochain.
Lundi prochain, il n'y a pas cours. Attendez, c'est vrai ça? C'est pas vrai. Non, non, le soir il y a cours. Excusez-moi, c'est la journée. Non, il y a.
C'est le matin qu'il y a pas cours.
Le matin, il n'y a pas cours. Non, il y aura cours. Ce cours-là, il a lieu.
Lundi 2, 12.
On va prélever la prima.
Pardon?
C'est très important. Pour pouvoir prélever la trauma.
La trauma?
Oui.
La semaine prochaine, d'accord. Ok. Bien, bonne soirée.
Merci.
Bonne soirée. Bonjour.